VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Côte d'Ivoire, la mission des Nations Unies dans le pays prend officiellement fin aujourd'hui après 13 ans de présence. L'ONU s'y a été déployée en février 2004, 2 ans après le début de la crise politico-militaire ivoirienne. Abdourahmane Dia.
La chef de l'ONUCI, Aïchatou Mine Daoudou, a fait ses adieux au président ivoirien Alassane Ouattara après avoir assisté à une cérémonie de descente du drapeau de l'ONU à son siège en présence du ministre ivoirien de l'Intérieur. Ahmed Bakayoko a remercié l'ONUCI pour avoir, dit-il, contribué au retour et au maintien de la paix. De son côté, Mme Mine Daoudou a expliqué que le départ de l'ONUCI ne signifiait pas pour autant la fin de l'implication de l'ONU dans la consolidation de la paix. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de crises politico-militaires marquée par la séparation du pays en deux de 2002 à 2011 après un coup d'État manqué contre le président Laurent Gbagbo. La crise post-électorale de 2010-2011, qui a fait plus de 3000 morts en 5 mois, a constitué l'épilogue de cette décennie sanglante. Madame Mine Daoudou a indiqué dans une interview à Jeune Afrique que la réconciliation est un processus long dans tous les pays qui sortent de crise. Elle a appelé les autorités judiciaires à juger les auteurs de violations graves des droits de l'homme.
RCA, la situation humanitaire est alarmante à Bria, ville du centre de la du pays vidé de ses habitants où de violents combats entre milices ont fait une centaine de morts il y a une semaine. C'est ce qu'affirme l'ONG Médecins sans frontières. Les besoins sont énormes en termes de latrines ou encore d'accès à l'eau, alors que 40 000 des 47 000 habitants de la ville sont déplacés à l'intérieur de la localité ou dans ses environs, a déclaré Mumuza Mouindo, coordonnateur de projet pour MSF sur place depuis janvier 2016, de retour de Bria. Au Cameroun, la hiérarchie militaire connaît de grands changements depuis hier. Le président Paul Biya a mis à la retraite 6 généraux et 11 nouvelles nominations ont été annoncées dans 3 grandes forces de l'armée. Le président camerounais a également désigné un nouveau général de brigade pour coordonner la lutte contre le terrorisme dans la région de l'extrême nord. Les détails avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap.
Le général de brigade Nkavaler, installé le 30 janvier dernier comme intérimaire, est rappelé à Yaoundé pour le remplacer. Un général de brigade, Frédéric Ndjonkep. Un choix stratégique, selon le porte-parole de l'armée camerounaise, colonel Didier Badjek.
C'est un homme qui est brave. Il va dans le cœur même de la crise contre Boko Haram. Je crois aussi qu'il a de la ressource. Le point polémologique.
C'est dans cette région interarmée que quelques militaires ont engagé le 3 juin dernier une mutinerie vite étouffée, réclamant au passage primes et relèves au front. Du sang neuf a été aussi injecté dans le haut commandement avec la promotion de 11 colonels au grade de général de brigade, portés aussitôt au poste stratégique militaire et de gendarmerie sur l'ensemble du territoire national. Explication avec le porte-parole de l'armée camerounaise, colonel Badjek.
Au niveau des grands commandements, ce qui reste quand même l'implantation de la souveraineté de l'État, eh bien on peut dire qu'on a mis des généraux là, ce qui correspond quand même au grade indiqué pour commander ce genre de formation.
De nouveaux responsables de la logistique militaire, de gendarmerie, du budget, des équipements et dans certains tribunaux militaires ont été également nommés dans ce qui paraît comme un grand ménage au sein de l'armée camerounaise. Emmanuel Jultap, Yaoundé, VOA, Afrique.
En RDC, pas de festivité pour la célébration des 57 ans d'indépendance du pays aujourd'hui. Le président Joseph Kabila a annulé son discours de circonstance pour raison de santé. Et les autorités exhortent la population à plutôt commémorer la date du 30 juin dans la méditation. On écoute Basile Olongo, vice-ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ce n'est pas la première fois qu'on arrive le 30 et que les Congolais réfléchissent sur leur sort. Je pense que ce sera un bon moment, une belle journée de méditation. Vous avez suivi que depuis un certain temps, il y a quelques mois où la récolonisation s'annonce, il est grand temps de s'arrêter pour réfléchir. Lorsqu'on ne vous considère plus comme un État souverain, vous devez vous arrêter de réfléchir. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour défiler, il y a un temps pour réfléchir, pour s'interroger d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où nous allons.
Basile Olongo, vice-ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Forum panafricain de la jeunesse, les travaux ont démarré ce jeudi 29 juin 2017 à N'Djamena au Tchad. Une occasion pour les jeunes des 54 pays d'Afrique de plancher sur leur avenir à travers des thématiques issues de la feuille de route du thème de l'année de l'Union africaine. À savoir tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Une rencontre qui se tient sous fond de crise de confiance entre les jeunes tchadiens et leurs gouvernants. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmajingar.
Emploi et entrepreneuriat, droit, gouvernance et autonomisation de la jeunesse, migration, paix et sécurité. Telle est l'ossature de la rencontre panafricaine dite de N'Djamena.
Les conclusions de ce forum doivent être à l'évidence le parfait reflet de l'ensemble des préoccupations de la jeunesse africaine.
Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, désigné leader du thème de l'année 2017 de l'Union africaine, il se propose porte-parole de la jeunesse du continent auprès de ses pairs au prochain sommet.
Le prochain sommet de l'Union africaine, j'aurai la responsabilité de présenter le rapport d'étape. De dire voilà, mes chers collègues chefs d'État, les points essentiels à sortir de ce forum et que nous devrions mettre en œuvre pour donner une chance réelle à notre jeunesse. Mais je voudrais vous dire, je n'inventerai rien. Rien du tout.
Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, invite le chef d'État, membre de l'organisation continentale, de dire la vérité à la jeunesse. Pour lui, il faut combattre deux choses.
Pauvreté, injustice. Voilà les deux choses qui sont la cause du terrorisme et de l'immigration. C'est pourquoi nous sommes décidés désormais à ce que l'on se dise la vérité et qu'on corrige les faiblesses que nous avons dans notre gestion, afin que les biens de l'Afrique soit mise à la disposition des couches les plus vulnérables, c'est-à-dire l'emploi jeune ou l'autonomisation des femmes. Si nous parlons à la jeunesse et que nous ne disons pas qu'elles sont nos tares, comment ils vont nous croire? Non, on n'a pas que des qualités. Tout ce qu'on fait n'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité.
Le Kamojet, collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, boycotte cette rencontre. Mohamed Zen Chérif, coordonnateur national, donne les raisons.
Aujourd'hui, la jeunesse tchadienne est dans une situation vraiment de misère, de chômage. Et il y a une crise de confiance entre les jeunes tchadiens et les institutions. Et le président de la République dit qu'il prend au cœur le problème de la jeunesse africaine. Moi, je trouve qu'en tant que tchadien, c'est une insulte pour nous. On ne peut pas sacrifier la jeunesse tchadienne sous l'autel du panafricanisme.
Les étudiants tchadiens, quant à eux, se disent déçus de l'organisation de ce forum. Ils estiment que le gouvernement a choisi de jeunes acquis à sa cause pour participer à cette grande messe panafricaine.
Apparemment, c'est un grand nombre de la jeunesse qui n'est pas impliquée, moins encore informée. Et ce forum se passe beaucoup plus dans un cercle plus restreint. Comment est-ce qu'on peut représenter une jeunesse qui n'est même pas impliquée, moins encore informée? Je ne suis même pas au courant.
Ce forum est organisé simplement pour l'attente de certains hommes politiques en fonction de leurs intérêts.
André Kodumadingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, entame aujourd'hui une réunion de ses cadres à Johannesburg. Gwede Mantashe, son secrétaire général, assure que la croissance économique, la transformation sociale, la question de la terre et aussi la lutte contre la criminalité vont dominer les débats. Mais les cadres ont certainement la tête ailleurs. Morgan Guiriek.
Cette réunion, qui va durer 6 jours, s'ouvre par un discours du président Jacob Zuma. Les cadres de l'ANC doivent débattre de la ligne politique, mais la lutte pour le contrôle du parti sera dans tous les esprits. Le successeur de Zuma, à la tête du parti, doit être choisi en décembre prochain. Les deux principaux prétendants sont Cyril Ramaphosa, vice-président, réputé modéré et proche des milieux d'affaires de Nkosazana Dlamini Zuma, ex-patronne de la Commission de l'Union africaine et ancienne épouse de Jacob Zuma. Le parti au pouvoir est affaibli par les nombreux scandales que traîne son chef. Ce dernier a déjà essuyé un cinglant revers en août 2016 avec la perte des mairies emblématiques comme Johannesburg et Pretoria. L'Afrique du Sud se dirige vers des élections générales en 2019 sur fond de ralentissement économique, de chômage massif et de grogne sociale.
Et vous terminez, le président français Emmanuel Macron sera à Bamako au Mali dimanche pour assister au sommet du G5 Sahel. Paris entend apporter son soutien à la force conjointe des 5 pays du groupe, à savoir Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso et Tchad, face à la menace djihadiste. Le président français compte annoncer à la réunion de dimanche les modalités de ce soutien, qui consistera surtout en équipement selon l'Élysée. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.